Bien, il est 16 heures, donc nous pouvons commencer. Je vais faire circuler, puisque c'est la dernière séance du séminaire, et que peut-être au mois d'avril ou de juin, pour en particulier dans le cadre de l'école des hautes études, puisque vous savez, ce séminaire est à la fois le séminaire du collège et le séminaire pour l'école des hautes études en sciences sociales, il est possible qu'on puisse organiser, sous une forme différente, une journée d'études. Donc je vais vous demander, pour ceux qui seront encore là, au mois de mai, ou juin, puisqu'on peut reprendre les activités à partir de ce moment-là, d'écrire votre nom et puis votre mail et éventuellement le thème de recherche, ou si c'est une thèse ou un master, de façon à ce que je puisse contacter chacun si vous êtes là en mai ou juin et si on organise cette journée d'études qui pourrait être fondée d'un principe un peu différent, des présentations, des travaux que certains font. Donc, voilà. Donc, je fais circuler de toute façon. Même ceux qui ne seront pas là en mai et juin peuvent écrire, comme ça j'aurai leur mail pour ceux que je n'aurai pas. Oui, le nom, ce que vous faites, thèse, master, j'ai mis recherche. Vous pouvez mettre même vaguement le thème et puis ensuite votre mail. Donc, aujourd'hui, pour cette dernière séance, j'ai pensé un peu comme la première du séminaire, de faire un exercice un peu différent des choses les plus classiques, puisque nous avions, au cours des séances, depuis octobre, rencontré différents types d'approches critiques à l'intérieur de ce qu'on peut appeler la littérature ou l'histoire littéraire, et puis d'autre part, à l'intérieur de certaines perspectives historiques, et les se sont croisées parfois, d'autres fois, elles ont été menées en parallèle. J'ai pensé, en reprenant d'ailleurs un dialogue que j'ai eu avec Arlette Farge, de traiter en quelque sorte des rapports entre histoire et littérature, mais en laissant de côté les deux approches les plus classiques pour cette question histoire et littérature, qui occupent des volumes, des articles et des conversations ou des débats. Une approche classique que je rappelle, mais sur laquelle on ne va pas revenir, sauf si dans la discussion cela vous intéresse, c'est de considérer la dépendance de l'écriture de l'histoire, quelle qu'elle soit, même apparemment la plus quantitative, la plus structurale, la plus sérielle, par rapport à des figures ou des structures qui sont celles utilisées par les récits de fiction, que ce soit les figures rhétoriques ou les structures narratives. Et donc, du coup, la mise à nu de ces parentés entre l'écriture de l'histoire et l'écriture de la fiction travaille au cœur de livres classiques de Hayden White, Michel de Certeau, de Paul Ricoeur, et qui pose évidemment dans sa conséquence la question du statut de connaissance produit par les uns et les autres. Une fois établie leur parenté structurale en termes de structure de narration ou en termes de figure rhétorique, doit-on considérer que les uns et les autres produisent le même type de connaissances, ou doit-on considérer, ce qui est ma position, ou ce qui est aussi évidemment la position développée très souvent par Carlo Ginzburg, qu'il y a une spécificité de la connaissance historique qui se lie non pas à sa manière d'écrire, qui peut être commune avec celle des récits de fiction, mais qui se lie aux opérations propres du travail historique, construction de l'objet, invention et traitement des sources, critères de la preuve. Donc c'est une discussion fondamentale qui a occupé énormément des attentions des historiens ou des philosophes de l'histoire ou des spécialistes d'histoire de la rhétorique. Mais je la laisse de côté puisque peut-être elle est déjà bien située. L'autre approche classique, c'est plutôt celle que j'ai développée depuis que je suis ici, même avant, dans des cours ou dans des séminaires, c'est-à-dire de prendre des textes qu'on considère, nous, comme littéraires, comme objet d'une enquête historique qui peut mobiliser différentes perspectives, les unes comme on l'avait vu la fois dernière, qui s'attachent dans la tradition de la bibliographie matérielle et ou de l'histoire du livre à la matérialité même de l'inscription des textes. d'autres qui peuvent faire porter l'attention sur les contraintes sociales, économiques, politiques qui régissent les productions écrites pour la fiction, ou encore une attention qui se déplacerait non pas d'abord sur la matérialité même du texte, non pas sur les conditions qui rendent possible et en même temps bornent la composition du texte, mais sur ses réceptions, appropriations, interprétations, et donc là, un croisement entre une approche littéraire en termes d'esthétique de la réception avec une approche en termes d'histoire socioculturelle, en termes d'appropriation des discours. Et c'est une trame, ces trois éléments liés les uns aux autres, composition, inscription, réception, que j'ai essayé de suivre à de nombreuses reprises dans des travaux, vous l'avez vu, essentiellement sur Shakespeare ou Cervantes ou Molière. Aujourd'hui, je voudrais justement faire un propos un peu différent dans la mesure où la question que je voudrais poser, qu'on avait déjà touchée une fois dans l'exposé sur Carlo Ginzburg, c'est la question non pas du rapport de l'histoire à la littérature, mais du rapport de la littérature ou de certaines formes de la littérature à l'histoire. Et cette fonction ou ce rôle donné à la littérature d'occuper un espace fondamental dans la relation avec ou la connaissance du passé. Alors, il y a une première ambiguïté qu'il faut lever, mais qui n'est pas facile à lever, comme on l'avait vu à plusieurs reprises, c'est la question même de l'emploi du mot littérature. Dans la mesure où, pour nous, il évoque immédiatement un registre d'écriture, qui est celui de la fiction, de la fable, de l'imagination, et il s'associe immédiatement avec l'originalité de la création, de la composition littéraire, et d'autre part, une appropriation, une réception qui se situe dans le registre, si on se souvient les premiers mots du prologue du Quichotte, « Desocupado lector », un lecteur qui n'est pas occupé par les affaires de son office ou de sa tâche, mais qui a le temps libre du plaisir esthétique. Alors, évidemment, cette notion qui s'identifie ainsi avec une réception désoccupée et avec une composition d'imagination n'est pas adéquate à l'usage du terme dans l'histoire, avant sans doute la fin du XVIIIe siècle. On peut prendre non seulement évidemment le sens médiéval, lorsque la littérature désignait les lettres latines par rapport à tous les textes en vulgaire, mais plus proche des périodes qui sont celles de travail de ce séminaire ou des cours, les définitions des dictionnaires au XVIIe siècle. Si on prend le dictionnaire de Furtière, vous regardez, littérature, doctrine, érudition, connaissance profonde des lettres. Scaliger, Saumaise, Lipps, Bochard, Casaubon, Grotius, Bell et autres critiques modernes ont été des gens de grande littérature, d'une profonde littérature. Alors, il donne des exemples, un ouvrage plein de littérature. Ces amas d'écrits qui ne multiplient que les mots et non pas les choses sont l'opprobre de la littérature. Je veille à défendre le patrimoine des savants et la gloire de toute la littérature. On a une définition dans le Furtière en 1690 qui est quasiment opposée terme à terme à ce que nous entendons par littérature, puisque ce qui la constitue, ce n'est pas la beauté des mots, mais c'est les choses dont on donne la connaissance, puisqu'elle est identifiée non pas avec l'invention de l'imagination, mais avec la connaissance de l'érudition. Et puisque vous avez vu l'énumération de ceux qui étaient des gens de grande littérature, il n'y a pas un qui entrerait dans un panthéon d'une histoire littéraire aujourd'hui. Ils appartiennent tous à la famille des érudits humanistes, des antiquaires, des juristes comme Grotius, des antiquaires comme Casaubon, des philosophe érudit comme Bayle, et à la définition même de l'être dans le Furtière, on trouve l'être se dit aussi des sciences. C'est un homme de lettres, il a été élevé dans les lettres. On appelle lettres humaines ou belles lettres la connaissance des poètes et des orateurs. Les vraies belles lettres sont la physique, la géométrie et les sciences solides. La connaissance des belles lettres devient en plusieurs savants une érudition fort ennuyeuse. Saint-Évremond, comme un exemple pris par Furtière. Voyez qu'ici, l'être est à la fois l'être et science, et que d'autre part, les véritables belles lettres, ce sont la physique, la géométrie et les sciences solides, par rapport à des belles lettres qui ne seraient pas les vraies belles lettres. On a donc à faire effort pour comprendre comment un terme comme littérature va se charger de caractéristiques qui sont totalement refusées dans des définitions des dictionnaires du XVIIe siècle. Donc il faut accepter cette tension, c'est-à-dire d'user rétrospectivement d'un terme qui est chargé d'un certain nombre d'éléments, on l'a vu plusieurs fois, singularité de la création, esthétique de l'originalité et propriété littéraire, pour l'appliquer à des temps où littérature existe, mais pour définir des registres ou des régimes de discours complètement différents, puisque à la singularité de l'écriture s'oppose une écriture en collaboration, à l'esthétique de l'originalité, une invention à l'intérieur du paradigme dominant de l'imitation, et à la propriété intellectuelle, la propriété de la librairie. Donc il y a une tension inhérente à l'emploi du terme littérature lorsqu'on veut le situer dans l'historicité. Une fois acceptée cette tension ou cette difficulté, la première relation de la littérature à l'histoire, c'est dans un certain sens d'en occuper la place, c'est-à-dire la littérature comme prenant le lieu d'une histoire qui n'existe pas ou pas encore pour les écrivains. L'idée d'une science historique qui est desséchée, bornée, limitée aux trois idoles que Simian va prendre comme cible au début du XXe siècle, l'événement, le grand homme et la politique, les affaires du pouvoir. Et si l'histoire est définie à travers ces trois idoles, évidemment, la littérature, et en particulier dans la forme romanesque telle qu'elle se développe au XVIIIe siècle, entend prendre en charge ce qui est laissé de côté par cette pratique d'une histoire trop étroite. Et vous vous souvenez, ça c'est un des textes que j'avais déjà cité, comment Carlo Ginzburg, dans un des essais des fils et la trace, s'attache à Manzoni, au Manzoni des Promessi Sposi, des fiancés, le texte de 1827, et à un autre texte de 20 ans postérieur de Manzoni, qui est publié en 1845, qui s'appelle Del Romanzo Storico, et le sous-titre est d'un mélange d'histoire et d'invention qui le compose, des componimenti, des composantes de ce roman historique à la jonction entre storia et invenzione, et dans lequel, le prologue duquel, Manzoni imagine un dialogue entre un lecteur qui s'adresse à lui, mais c'est évidemment à lui-même qu'il se parle, et où il définit assez clairement, aujourd'hui je peux donner le texte en entier, assez clairement cet espace d'une fiction narrative, le roman, qui occupe l'espace d'une histoire qui n'existe pas. Alors ce interlocuteur fictif dit à Manzoni, le but de votre travail était de mettre devant mes yeux, à moi lecteur, sous une forme nouvelle et spéciale, une histoire plus riche, plus variée, plus accomplie que celle qui se trouve dans les œuvres auxquelles on donne ce nom plus communément et comme par antonomase. L'histoire que nous attendons de vous n'est pas un récit chronologique de simples faits politiques et militaires, avec à l'occasion quelque événement extraordinaire d'une autre sorte. Donc il y a les deux idoles, la politique au sens strict, étroit, et d'autre part l'événement. Ce qu'on attend, c'est une représentation plus générale de l'état de l'humanité en un temps et un lieu naturellement plus circonscrits que ceux où se situent d'ordinaire les travaux d'histoire au sens le plus habituel du terme. D'une certaine manière, il existe entre ces ouvrages et le vôtre la même différence qu'entre une carte géographique où sont indiquées les chaînes de montagnes, les fleuves, les villes, les bourgs, les routes principales d'une vaste région, et une carte topographique où tout est détaillé, disons tout ce qui peut y figurer dans une zone nettement plus réduite, et où sont indiquées aussi les hauteurs de moindre importance et les inégalités encore moins sensibles du terrain, les ravins, les étangs, les villages, les demeures isolées, les sentiers. Ici, la troisième idole, c'est-à-dire pas seulement les grands hommes qui pourraient figurer sur une carte géographique, mais tous ceux qui devraient être présents sur une carte topographique. Et il continue, les coutumes, les opinions, soit générales, soit particulières, à telle ou telle classe de personnes, les effets privés des événements publics que l'on appelle plus précisément historiques, et des lois ou des volontés des puissants, de toutes les manières dont elles se manifestent. En somme, tout ce qu'il y a eu de plus caractéristique dans toutes les conditions de la vie et dans les relations des unes avec les autres, une société donnée, à un moment donné, voilà ce que vous vous êtes proposé de faire connaître. On est évidemment très proche d'un programme donné au roman qui peut être celui de la comédie humaine de Balzac. Alors, on voit qu'ici, la place que veut occuper la littérature est celle d'une histoire qui n'existe pas encore, puisque celle qui existe est mutilante, faible, s'attachant à l'événement ou au grand homme, alors que ce qui est important, c'est pour un lieu et un moment donné de prendre en compte les phénomènes sociaux les plus importants, non seulement les définitions des classes, mais aussi les formes de la domination, la construction des identités. Et on pourrait s'interroger d'ailleurs sur le fait de ce savoir que l'on peut rappeler de nature sociologique, que ce soit le savoir de la sociologie ou le savoir d'une forme d'histoire social, économique, démographique, avant sa constitution, avant le moment où les idoles de Simian seront détrônées, où s'exprime-t-il ? Et effectivement, à partir du peut-être 18e siècle, sûrement 19e siècle, le roman devient le lieu de cette expression du savoir sur le monde social. Les divisions, les dominations, les constructions d'identité. Et on peut penser qu'auparavant, et c'est au moins une des lectures possibles que l'on peut faire de certains répertoires théâtrales, c'est sur la scène et dans le texte de théâtre que ce savoir sur le monde social se loge, y compris, ou peut-être surtout, lorsque l'intrigue est socialement invraisemblable, mais où, dans cette invraisemblance, elle vise des mécanismes qui sont les mécanismes les plus essentiels dans une société pour la définition des identités et pour la mise à nu des relations de domination. Le répertoire de Molière peut être abordé de cette façon, me semble-t-il. Mais au XIXe siècle, c'est évidemment le roman qui sert de lieu à cette forme d'écriture qui met à nu les mécanismes du monde social. L'histoire, en étant très éloignée, au dire de Manzoni, au dire de Balzac. Et c'est pourquoi on peut prendre, évidemment, cette forme-là à travers des exemples spectaculaires. Un exemple, évidemment, que j'avais cité la fois dernière, mais qu'aujourd'hui on peut citer textuellement, c'était la première page des Illusions perdues de Balzac, et qui, au début de cette histoire, qui se passe à Angoulême, dans l'imprimerie au départ de Séchard, vous avez cette façon d'une écriture de fiction qui s'empare du lieu même de la description historique, c'est-à-dire une description qui ici est à la fois une description technique, une description géographique et une description sociale. Je lis ce premier paragraphe des Illusions perdues. À l'époque où commence cette histoire, la presse de Stanhope et les rouleaux à distribuer l'encre ne fonctionnaient pas encore dans les petites imprimeries de province. C'est-à-dire ici, d'entrée de jeu, il y a une allusion donc à la presse qui est d'invention anglaise, utilisée pour la première fois dans les ateliers du Times, le journal en 1812, et qui est une presse mécanique, au sens qu'elle est mue par la vapeur. Et les rouleaux à distribuer l'encre, qui sont l'élément essentiel qui va remplacer le rôle qui était joué par la force des pressiers. Cet immédiat contraste qui est fait entre les lieux où elle existait, en temps des Paris, les grandes villes, et la province, Angoulême, où l'on reste dans un monde typographique qui est celui de Gutenberg. Malgré la spécialité qui la met en rapport avec la typographie parisienne, Angoulême se servait toujours des presses en bois, auxquelles la langue est redevable du mot « faire gémir la presse », maintenant sans application. L'imprimerie arriérée y employait encore les balles en cuir frottées d'encre avec lesquelles l'un des pressiers tamponnait les caractères. Le plateau mobile, où se place la forme pleine de lettres sur laquelle s'applique la feuille de papier, était encore en pierre et justifiait son nom de marbre. On a une description de l'atelier gutenbergien avec les compositeurs et les pressiers, avec l'ancrage des formes composées et leur tirage sur la presse. Et vous voyez que le contraste est à la fois immédiatement un contraste géographique entre Paris et une ville de province qui fait que, tout en étant contemporaines, elles ne vivent pas dans le même temps. Les dévorantes presses mécaniques ont aujourd'hui si bien fait oublier ce mécanisme auquel nous devons, malgré ses imperfections, les beaux livres des Elzévirs, des Plantin, des Alde et des Didot, qu'il est nécessaire de mentionner les vieux outils auxquels Jérôme Nicolas Séchard portait une superstitieuse affection, car ils jouent leur rôle dans cette grande petite histoire. Et l'expression est magnifique, cette grande petite histoire, qui est que l'histoire est petite parce qu'elle est finalement celle d'un lieu, d'un temps, d'un personnage ou d'une série de personnages. Elle est localisée comme le doit le roman. Mais elle est plus grande que l'histoire qui se pense grande, parce qu'elle met en jeu ici les décalages chronologiques, donc elle brise l'idée d'une contemporanéité, elle renvoie même à des décalages dans les manières de dire, puisque tout le vocabulaire lié à la presse de Gutenberg a disparu lorsqu'on est entré dans le monde de la mécanisation de l'impression, avec les presses mécaniques à vapeur. Et elle est du même coup que l'organisation d'une relation de domination qui existe entre ceux qui ont accès à la technique moderne et ceux qui vivent dans ce lieu, Angoulême, la province. Alors le paragraphe ensuite va commencer à dessiner la figure de Jérôme Nicolas Séchard. Ce Séchard était un ancien compagnon pressier que dans leur argot typographique, c'est ce que je cherchais la dernière fois, les ouvriers chargés d'assembler les lettres appellent un ours, les mouvements de va-et-vient qui ressemblent le mouvement de va-et-vient qui ressemble assez à celui d'un ours en cage par lequel les pressiers se portent de l'encrier à la presse et de la presse à l'encrier, leur a sans doute valu ce sobriquet. En revanche, les ours ont nommé les compositeurs, et c'est ce que je ne trouvais pas la fois dernière, des singes, à cause du continuel exercice que font ces messieurs pour attraper les lettres dans les 152 petites cases où elles sont contenues. Et on entre dans l'histoire, dans cette grande petite histoire. Mais l'expression me paraît grande petite histoire est finalement une illustration parfaite du texte de Manzoni, c'est-à-dire elle est localisée, donc elle est petite, elle se passe à Angoulême avec une famille, Séchard et son héritier, mais en même temps elle est grande puisque à travers l'écriture qui en est faite par Balzac, c'est l'ensemble du monde social de la France du 19e, mais c'est au-delà de la modernité avec ses inégales présences qui est l'objet même du roman. Ça, c'est une première perspective dans laquelle la littérature, en particulier le roman, avant le théâtre, s'empare d'un lieu laissé inoccupé par l'histoire, c'est-à-dire finalement une description qui régisse les mécanismes, une description des mécanismes qui régissent le monde social. Il y a, dans le XIXe siècle, et en particulier en sa fin, l'inverse. C'est-à-dire lorsque une première forme d'histoire, on peut penser à Michelet, c'est-à-dire une histoire des masses, des foules, des sociétés, va se mettre en place comme une réponse, dans un sens, à cette capture par le roman du discours sur le social. Il y a l'inverse, c'est-à-dire la littérature comme affirmant sa seule compétence pour faire connaître la singularité, l'individuel, la différence. Et un livre a tenu, me semble-t-il, un rôle essentiel dans cette manière-là d'opposer la littérature à l'histoire, parce qu'elle porte l'attention sur ce qui est impossible d'atteindre pour l'histoire. C'est ce livre de Marcel Schwob, Les vies imaginaires. Qui est un livre publié en 1898 et qui est chez Charpentier et qui rassemble des fragments de textes de vie qui avaient été publiés séparément et de manière successive par Schwab dans un journal qui avait un titre très simple, Le Journal, et qui les rassemble donc en 1898. Alors l'intérêt de ce livre, qui a une très forte postérité, même s'il n'a pas été forcément toujours lu ou relu, c'est d'abord d'affirmer que la vie, la biographie, doit être détachée de rapport des existences avec les grands événements, les idées générales, et que l'attention doit se focaliser sur ce qu'il y a de radicalement singulier, de bizarrement individuel dans une trajectoire d'existence. Et le début du livre, la préface par Marcel Schwob, est « La science historique nous laisse dans l'incertitude sur les individus. Elle ne nous révèle que les points par où ils furent attachés aux actions générales. Elle nous dit que Napoléon était souffrant le jour de Waterloo, qu'il faut attribuer l'excessive activité intellectuelle de Newton à la continence absolue de son tempérament, qu'Alexandre était ivre lorsqu'il tua Clitos et que la fistule de Louis XIV put être la cause de certaines de ses résolutions. Pascal raisonne sur le nez de Cléopâtre s'il eût été plus court ou sur un grain de sable dans l'urètre de Cromwell. Tous ces faits individuels n'ont de valeur que parce qu'ils ont modifié les événements ou qu'ils auraient pu en dévier la série. Ce sont des causes réelles ou possibles. Il faut les laisser aux savants. L'art est à l'opposé des idées générales, ne décrit que l'individuel, ne désire que l'unique, il ne classe pas, il déclasse. Donc ça, c'est le début du projet, c'est-à-dire la radicale dissociation entre la grande histoire, les idées générales, et les destins des individus. Ce qui fait que Marcel Schwab va chercher des référents dans l'histoire à cette pratique de la biographie comme exercice de la singularité radicalement séparée, soit de l'œuvre qui a été produite par l'individu, soit de son rôle dans une histoire que l'on pourra qualifier de grande. Du coup, il réhabilite des genres qui avaient pu être complètement disqualifiés, comme par exemple les recueils d'anecdotes sur les individus. J'en avais mentionné une dans un premier séminaire, qui est ce recueil des anecdotes qui s'appelle en anglais « Brève vie des personnes éminentes qui étaient un travail qui était celui de John Aubrey. C'est un texte de 1680 et qui était une compilation d'anecdotes sur Aubrey. Ça s'écrit très simplement, je vérifiais, mais qui était une compilation d'anecdotes sur les auteurs, et on y trouve par exemple cette compilation d'anecdotes sur Shakespeare. C'est pour ça que j'en avais parlé, puisque la première biographie de Shakespeare dans l'édition de Rowe de 1709 reprenait une série d'anecdotes contées par John Aubrey. Et évidemment, cette manière-là a été disqualifiée lorsque, dans le paradigme que l'on a étudié, où l'on met en rapport le destin de l'individu et le mouvement de l'œuvre, il s'agit non plus de se fier à des anecdotes sans pertinence, mais de repérer comment l'œuvre a pu porter, enfin comment la vie, les expériences ont pu porter l'œuvre, et d'autre part de déceler dans l'œuvre les traces de l'existence. Ce qui est le point de départ de la première biographie, on va dire, scientifique de Shakespeare, donnée par Malone à la fin du XVIIIe siècle, récusant ces recueils d'anecdotes sans sens et toutes controuvées, pour une recherche à la fois dans les archives, qui se limitent assez vite dans un cas d'un auteur comme Shakespeare, mais néanmoins, Malone a travaillé sur les archives de Stratford-upon-Avon, sur les archives de la Stationer's Company, pour pouvoir resituer les œuvres dans la vie, ce qui amenait la première fois à les publier d'ordre chronologique et non plus thématique, et d'autre part de considérer que la principale source, finalement, sur la vie de Shakespeare, c'était les œuvres elles-mêmes, où on pouvait lire son rapport avec le père, son rapport avec la minorité juive en Angleterre, son rapport avec les femmes, etc. Donc, ce modèle-là suppose à la fois une recherche archivistique qui déconsidère ces recueils d'anecdotes transmis oralement, participant d'un folklore autour des auteurs, et d'autre part, elle est fondée, ou elle fonde, leur relation entre les expériences d'existence et la composition des textes. Mais Schwab, dans sa propre perspective, réhabilite la perspective de John Aubrey, puisque justement, elle était une préfiguration d'un détachement de faits d'existence par rapport à l'œuvre. Et d'autre part, il cherche une autre ressource dans le peintre japonais Hokusai, qui est un peintre de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, et dont la théorie est que les choses apparemment les plus semblables, un point, une ligne, doivent toujours être peintes dans la singularité et la différence. Hokusai a vécu en 1760 et 1849. Et Schwab le convoque pour ce projet, rendre individuel ce qu'il y a de plus général. Et un point limite, là, puisqu'il semble que un point ou une ligne doit être toujours un point ou une ligne. Et c'est justement d'introduire la singularité dans ce qui paraît le plus commun qui définit l'art d'Hokusai et qui définit le projet de Schwab. La conséquence de cela, c'est que l'art, la biographie, comme le titre l'indique, vie imaginaire, la biographie doit se libérer de l'exigence de véracité objective de l'histoire, et du coup faire le choix de l'unique, du spécifique, en quelque sorte, d'une part, de renverser ce qui s'est imposé comme modèle de rapport entre vie et œuvre, c'est-à-dire la vie comme le soubassement, l'aliment, la matière qui va se transformer dans l'œuvre, même si on ne peut pas toujours l'atteindre faute d'archives, mais néanmoins, c'est l'idée que l'œuvre s'inscrit dans la vie parce que la vie en est la matrice, les expériences, les souffrances, les plaisirs, les rencontres. Lui, il inverse, c'est-à-dire que les œuvres deviennent la vie. Et il pousse le point à son extrême par rapport à ce que je disais lorsque sont absentes les archives sur l'existence, de construire des vies qui sont imaginaires dans le sens où que l'auteur est crédité pour ses croyances ou pour ses représentations ou pour ses sentiments de ceux ou celles qu'il a créées comme ses créatures ou comme ses personnages. Cette libération par rapport à la véracité du texte, on peut la trouver vers la fin de la préface. L'art du biographe consiste justement dans le choix, c'est-à-dire le choix entre l'anecdote, le détail singulier et une perspective dans laquelle la raison de l'œuvre est liée avec la vie. Il n'a pas à se préoccuper d'être vrai. Il doit créer dans un chaos de traits humains. Leibniz dit que pour faire le monde, Dieu a choisi le meilleur parmi les possibles. Le biographe, comme une divinité inférieure, sait choisir parmi les possibles humains celui qui est unique. Il ne doit pas plus se tromper sur l'art que Dieu ne s'est trompé sur la bonté. Il est nécessaire que leur instinct à tous deux soit infaillible. De patients démiurges ont assemblé pour le biographe des idées, des mouvements de physionomie, des événements. Leur œuvre se trouve dans les chroniques, les mémoires, les correspondances, les scolies. Au milieu de cette grossière réunion, le biographe trie de quoi composer une forme qui ne ressemble à aucune autre. Il n'est pas utile qu'elle soit pareille à celle qui fut créée jadis par un Dieu supérieur, pourvu qu'elle soit unique comme toute création. Et donc, ce rôle du biographe dans les vies imaginaires est de créer des créatures comme Dieu en a créé, et il n'est pas nécessaire que les unes recouvrent les autres. Et les créatures d'imagination créées par Schwab peuvent être créées, par exemple, par cette construction d'un être qui est entièrement le produit des fictions qu'il a écrites. Il y a un exemple tout à fait spectaculaire dans les vies, c'est celle d'un écrivain élisabétain, pas trop connu, qui s'appelle Cyril Tourneur. Et Cyril Tourneur est un auteur auquel on peut attribuer en toute certitude une pièce qui s'appelle « The Atheist Tragedy », la tragédie de l'athée, en fait, qui est une critique de la position de la philosophie naturelle, de la négation de la providence, de l'explication purement naturelle des phénomènes. Et on lui a attribué longtemps, c'est ce que pensait Schwab, une autre pièce qui s'appelle « The Revenger's Tragedy », la tragédie du vengeur, qui est une des pièces qui s'inscrit dans le cycle des tragédies de la vengeance, dont la première serait la Spanish Tragedy de Kyd, dont l'exemple le plus connu est évidemment une pièce de Shakespeare qui s'appelle Hamlet. Mais aujourd'hui, on ne l'attribuerait plus, cette pièce, à Cyril Tourneur, puisque de nombreuses évidences font qu'on la considère comme ayant été écrite par Middleton. Mais dans sa biographie fulgurante de Cyril Tourneur, Schwab construit le dramaturge à l'image ou en empruntant des traits à certaines des personnages, surtout la tragédie du vengeur. Mais pour donner une idée de la force du style de Schwab, le premier paragraphe, Cyril Tourneur naquit de l'union d'un dieu inconnu avec une prostituée. On trouve la preuve de son origine divine dans l'athéisme héroïque sous lequel il succomba. Sa mère lui transmit l'instinct de la révolution et de la luxure, la peur de la mort, le frémissement de la volupté et la haine des rois. Il tint de son père l'amour de se couronner, l'orgueil de régner et la joie de créer. Tous deux lui donnèrent le goût de la nuit, de la lumière rouge et du sang. La date de sa naissance est ignorée, mais il parut dans une journée noire sous une année pestilentielle. Et on voit tout le déplacement, puisque d'une part, il attribue à Tourneur les idées de son athéiste, de son athée dans la pièce. Et en plus, évidemment, il en détourne totalement le sens, puisque dans la pièce de Tourneur, cet athée est condamné. Il est condamné et tous les projets qu'il a, ou toutes les vilainies que lui fait faire sa absence de croyance en toute providence divine, se retourne contre lui et il est la victime finale. Donc l'idée que Tourneur était athée comme elle est son personnage, mais positif, avec cette vertu au moins énergique, sinon positive, est à très grande distance de la pièce. Mais peu importe, ce qui est mis en place là, c'est cette création par l'auteur d'un personnage mis en situation avec cette peur de la mort, cet frémissement de la volupté et l'amour de se couronner. Ce qui fait qu'en pointant à l'autre pièce, la tragédie du vengeur, The Revenger's Tragedy, Tourneur mène cette Schwab mène cette biographie avec cette fin elle aussi fulgurante. Quand Cyril Tourneur eut assouvi sa haine des rois, il fut étreint par la haine des dieux. L'aiguillon divin qu'il avait en lui l'excita à créer. Il songea qu'il pourrait fonder une génération dans son propre sang et se propager comme dieu sur terre. Il regarda sa fille et la trouva vierge et désirable. Pour accomplir son dessein à la face du ciel, il ne trouva point d'endroit plus significatif qu'un cimetière. Il jura de braver la mort et de créer une nouvelle humanité au milieu de la destruction fixée par les ordres divins. Entouré de vieux os, il voulut engendrer de jeunes os. Cyril Tourneur posséda sa fille sur le couvercle d'un charnier. La base, c'est quelques lignes dans la tragédie du vengeur, où effectivement, dans le cas du drame élisabétain, les transgressions sont... fortes, par exemple, par rapport au cadavre et à la mort, ou par rapport à l'inceste. Mais finalement, on aurait un texte de Schwab qui est plus élisabétain que les élisabétains eux-mêmes, avec cette sorte de macabre, où le répertoire élisabétain vient croiser une sorte de répertoire post-romantique. Mais on voit que le projet ici est que la littérature occupe la place de l'histoire, ne se préoccupant pas d'une véracité documentaire, mais créant, comme il le dit, des existences uniques, des hommes, qu'ils aient été divins, médiocres ou criminels. Et donc une attention portée à la singularité et en plus à une sorte de distance par rapport à la rationalité, que ce soit la rationalité d'une œuvre supposément construite avec les expériences de la vie, ou que ce soit la rationalité d'événements liés avec des psychologies individuelles. Il sépare toujours le type d'anecdote, de trait qui est mis en scène de tout rapport avec les œuvres lorsque les auteurs dont il parle ont écrit des œuvres. D'autres sont des personnages en général jamais totalement imaginés. Il y a toujours une base textuelle qui leur donne un point de départ de réel et en même temps totalement séparé de toute forme de la grande histoire. Alors je disais que ce texte de Schwab a eu des postérités multiples, on peut en retenir au moins trois. La première est l'usage qu'en fait Borges dans un des livres, premier livre, l'histoire universelle de l'infamie. Et plus tard, Borges reconnaît cette dette par rapport à Schwab. Il écrit à un moment donné, Borges avait commencé une série qui s'appelle Bibliotheca Personale et qui était la republication demandée par un éditeur de Buenos Aires de textes qu'il aimait. Et il avait repris en traduction espagnole le texte de Schwab, des vies imaginaires. Et en le commentant de cette façon, les protagonistes sont réels, les faits peuvent être fabuleux, il n'est pas rare qu'ils soient fantasmatiques. La saveur particulière de ce volume réside dans ce va-et-vient. Ça, c'était la préface en 1984, au volume de Schwab, traduit en espagnol, qu'il avait situé dans sa Bibliotheca Personale, avec toujours d'assez très brèves introductions. Mais la référence à Schwab était beaucoup plus ancienne, puisqu'elle est la base de ce texte, l'histoire universelle de l'infamie, qui a beaucoup de parenté avec le texte de Schwab, d'abord parce que c'est des biographies qui ont été publiées séparément dans la presse, dans le cas de Schwab, le journal, dans le cas de Borges, une expérience intéressante de sa vie qui était la revista multicolore de los sábados, la revue multicolore des samedis, et qui était offert en supplément aux lecteurs d'un journal qui s'appelait Critica. Et d'autre part, par la référence commune à un modèle partagé par Schwab et par Borges, c'est-à-dire Stevenson. Et donc, dans le commentaire que fait Borges de l'écriture de cette histoire universelle de l'infamie, mais qui est en fait une série de portraits, une série de biographies, plus longues d'ailleurs que celle de Schwab, il le rappelle, dans mon histoire universelle de l'infamie, je n'ai pas voulu répéter ce que Marcel Schwab avait fait dans ses vies imaginaires. Il avait inventé les biographies d'hommes qui avaient existé réellement, mais à propos desquels on ne savait à peu près rien. Tandis que moi, je lisais la vie d'un personnage connu et je la déformais et la faussais délibérément au gré de ma fantaisie. Ce qui est important, ce n'est pas tellement ce qu'il dit, parce que ce n'est pas complètement adéquat, dans la mesure où la galerie des vies imaginaires de Schwab a des personnages, effectivement, comme je le disais, qui n'ont qu'une trace textuelle, mais d'autres... Paolo Uccello, Cyril Tourneur, le capitaine Kidd, Petrone, Empédocle, évidemment, sont des personnages historiques qui n'ont rien que de... disons, on ne savait à peu près rien. Pour certains, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est la distance qui est prise entre ce que Schwab leur attribue et puis ce qui était la tradition de ce qui était écrit sur eux qui fait l'essentiel. Mais ce qui est important, c'est le fait que l'histoire universelle de l'infamie est pensée dans la relation avec ce texte de Schwab. Et il introduit une notion qui, vous le savez, aura une postérité importante, qui est celle des vies infâmes, de l'infamie. Et cette infamie, elle est liée au fait que, comme il dit, c'est un livre qui est plein de patibulos y piratas, de gibets et de pirates. Et dans cette perspective de cette infamie qui est celle des pirates, pour l'essentiel, ou des criminels, on retrouve un des soucis qui est toujours présent chez Borges, c'est-à-dire l'idée que par la littérature, on peut éviter le stéréotype et que l'on peut montrer que lorsqu'il existe une catégorie générique, les individus de chair et d'os en sont toujours à distance. Donc, du coup, c'est ce qui fonde, par exemple, ce qu'il écrit sur un genre très important dans la littérature argentine, qui est la poésie gauchesca, la poésie qui se donne comme écrite par les gauchos, et qui, à partir du XIXe siècle, a une tradition, un des textes plus célèbres étant évidemment le Martín Fierro. Et il écrit dans un essai qui a pour titre « L'écrivain argentin et la tradition », la chose suivante, qui me paraît très importante, en particulier pour les débats qu'on a pu avoir autour des concepts de littérature ou de culture populaire. À mon avis, il y a une différence fondamentale entre la poésie des gauchos et la poésie gauchesque. Il suffit de comparer n'importe quel recueil de poésie populaire et Martín Fierro, Paulino Lucero, Fausto, qui sont trois titres de la littérature gauchesca, pour remarquer cette différence qui ne réside pas moins dans le vocabulaire que dans le dessin des poètes. Les poètes populaires de la campagne et des faubourgs versifient des thèmes généraux, les peines de l'amour et de l'absence, la douleur de l'amour, et ceci dans un vocabulaire très général aussi. En revanche, les poètes gauchos, qui sont des membres de l'élite ou d'une petite élite lettrée et littéraire, cultivent un langage délibérément populaire auquel les poètes populaires ne font pas appel. Je ne veux pas dire que le langage des poètes populaires soit un espagnol correct. Je veux dire que s'il s'y trouve des incorrections, elles sont le fait de l'ignorance. En revanche, il y a chez les poètes gauchesques une recherche des mots typiques, une profusion de couleurs locales. En voici la preuve. un Colombien, un Mexicain ou un Espagnol peuvent comprendre aisément les poésies des payadores, des gauchos, des poètes populaires réels. Mais il leur faut un glossaire pour comprendre, ne serait-ce qu'approximativement, Estanislao del Campo ou Ascasubi, qui sont deux des poètes de la lignée de la poésie gauchesca. Et donc cette distinction entre un genre littéraire qui se donne comme populaire et qui emploie des ressources pour qu'il apparaisse comme populaire, en particulier il y a un vocabulaire spécial, des incorrections linguistiques, et d'autre part une poésie effectivement émanée d'individus qui appartiennent au monde paysan ou populaire et qui est à distance de ce pittoresque, de cette couleur locale, et qui traite généralement de thèmes généraux, est une distinction évidemment qui est tout à fait intéressante puisqu'elle permet ou oblige à rechercher quels sont les effets de populaire dans des littératures lettrées que l'on a pu parfois immédiatement identifier avec des littératures populaires. Et il renouvelle la même tension lorsqu'il présentait un de ces textes qui a été ajouté dans une des rééditions de la Historia Universal de la Infamia et qui est un des textes évidemment les plus célèbres de Borges, ou du moins de ce Borges-là, le Borges d'une écriture du faubourg, du populaire, du criminel, de l'infamie. C'est celle qui est le récit qui s'appelle « L'homme au coin du mur rouge »,« Hombre de la esquina rosada », et dans lequel il établit lui, à nouveau mais la même distinction. On notera que j'ai intercalé dans le texte, dont la tonalité est faubourienne, quelques mots recherchés, « viscère »,« conversion ». Je l'ai fait car le compadre, qui est l'équivalent du voyou, du petit criminel, aspire à la distinction. Ou bien, cette raison exclut la précédente, mais elle est peut-être la vraie raison, parce que les compadres, les voyous, sont des individus et ne s'expriment pas toujours comme le compadre avec une majuscule qui est un personnage platonicien. C'est le même rapport entre la figure littéraire platonicienne du voyou avec un grand V et les hommes de chair et d'os qui sont des voyous, qui est établi entre le gaucho de la poésie gauchesca et le gaucho qui écrit de la poésie de sa propre inspiration. Donc je vois qu'il y a là une première appropriation du texte de Schwab par Borges, et vous voyez, jouant à la fois sur la catégorie de l'infâme, sur l'individualité par rapport non seulement au collectif, mais par rapport aux stéréotypes, et aussi sur l'idée de construire à partir d'individus réels des vies imaginaires, comme si finalement le biographe était cette divinité secondaire dont parle Marcel Schwab. Un autre héritage, ou une autre présence, on la rencontrerait dans un auteur français contemporain, qui est Pierre Michon, et dont un des livres les plus fameux qui a établi sa réputation littéraire est en 1984, un livre qui a pour titre « Vie minuscule ». Vous voyez d'ailleurs que dans tous ces cas, il n'y a pas d'article. Schwab, c'est « Vie imaginaire », Pierre Michon, « Vie minuscule ». Et dans ce texte de 1984, il n'y a pas de référence explicite à Marcel Schwab, et il y a des différences avec l'écriture et de Schwab et de Borges, parce qu'il s'agit de vies qui sont incrustées dans une trame biographique, dans un récit de nature biographique, un jeu qui apparaît, qui peut correspondre avec l'auteur réel ou qui est un jeu de fiction, mais qui crée en quelque sorte une trame de récits de vie pour incruster d'autres vies, qui sont ces vies minuscules, et Michon emploie ce vocabulaire des histoires infimes, des vies minuscules. Je vais prendre un exemple pour montrer la manière d'écriture de cette de Pierre Michon dans ce livre. À un moment donné, le jeu qui est le narrateur, à la suite d'une bagarre, à la suite d'une ivresse, se trouve à l'hôpital à Clermont-Ferrand. Et il décrit la salle de l'hôpital de Clermont-Ferrand, et il y a un des malades qui est un vieux malade, et je cite, « il s'appelait Foucault ». Et les infirmières, avec l'indiscrète familiarité condescendante et qui sait charitable qu'elles mettent à leur commerce, l'appelaient le père Foucault. Affublé de ce nom de philosophe en vogue et de missionnaire illustre, père lui aussi, le vieil homme n'en paraissait que plus obscur et prêtait à sourire. Je n'ai jamais connu son prénom. Alors, on déroule l'histoire ou cette histoire vue de l'extérieur d'un personnage reconstruit par le narrateur qui est le père Foucault. Et ce père Foucault a une caractéristique. Il ne veut pas être déplacé à Paris alors qu'il y aurait à Paris un hôpital qui pourrait guérir ou traiter son cancer. Et personne ne sait pourquoi il refuse ce transfert. Les médecins lui parlent de l'hôpital parisien, splendide comme des palais, des guérisons, des êtres raisonnables, et lui apparaît comme un être qui ne l'est pas. Le médecin-chef était sincère, il avait bon cœur sous sa suffisance professionnelle et son masque de condottiere. Le vieil entêté lui était sympathique. Plus qu'aux arguments de raison, j'aimerais croire que c'est à cette sympathie que le père Foucault se sentit un devoir de répondre. Car il répondit, puisqu'on lui demande toujours, mais pourquoi vous ne voulez pas être transféré à l'hôpital à Paris ? Et pour courte qu'elle fût, sa réponse fut plus éclairante et définitive qu'un long discours. Il leva les yeux sur son tourmenteur, donc ce médecin qui voudrait le faire transporter pour son bien, sembla osciller sous le poids de son étonnement, toujours recommencé et augmenté du fait de ce qu'il allait dire, et avec le même mouvement de toutes les épaules qu'il avait peut-être pour se décharger d'un sac de farine, il dit d'un ton navré, mais d'une voix si étrangement claire que toute la salle l'entendit, « Je suis illettré ». Et c'était là la clé de son refus d'être confronté à des situations où il savait qu'il devrait marquer cette différence. Alors ça, c'est un exemple d'une de ces vies incrustées dans celle du narrateur et qui est minuscule ou infime, un illettré, un malade dans un hôpital à Clermont-Ferrand et qui est réduite finalement à cette dimension. Tout ce qui est dit de lui tient en rapport, en relation avec le fait qu'il va avouer « je suis illettré ». Un autre exemple de la manière de Michon, c'est une autre vie, en ce cas-là, une autre mort, une jeune fille qui est emportée par la leucémie, qui est encore une très jeune fille, je pense que là, je ne me rappelle plus, mais 7 ou 8 ans. Et Michon décrit comment cette existence-là, brisée, est inscrite dans le milieu qu'il vise avec ses vies minuscules ou ces histoires infimes. Après la mort, voilà. La pauvre petite, dit-on d'elle, désormais, comme on disait, ta pauvre petite sœur. À Mourioux, en effet, qui est ce village où elle vivait avant de mourir de la leucémie, comme peut-être plus généralement chez les modestes que ces pages complaisantes trahissent, on répugne à dire mort, défunt, disparu, feu un tel même est rare. Non, tous les morts sont pauvres, grelottant on ne sait où, de froid, de faim indécise et de grande solitude. Les morts, les pauvres morts, plus fauchés que des clochards et plus perplexes que des idiots, tout déconcertés, empêtrés sans un mot dans une tracasserie de mauvais rêves et qui ont l'air si terribles sur de vieilles images quand ils sont si doux, bénins et égarés dans le noir comme de petits poussets, à jamais les derniers des derniers, les plus petits des petites gens. Donc là, ce qui a été retenu, là, évidemment, d'une stratégie, d'une écriture de Schwab, c'est cette idée du minuscule, pas de l'infâme, mais de l'infime. Et comme on le voit ici, avec cette insistance sur modeste, petit pousset, les plus petits des petites gens. Alors, si j'ai pris l'exemple, évidemment, du premier exemple dans Michon du père Foucault, le nom du père de Foucault, ou du nom de ce philosophe en vogue, comme il est dit, c'est parce que ce texte est évidemment inséparable d'un texte de Foucault, pas le père Foucault, mais Michel Foucault, qui était il y a le texte de 1977, qui a pour titre « La vie des hommes infâmes », et qui est un texte publié dans une revue qui s'appelle « Les cahiers du chemin ». Un peu comme Borges dans des projets d'édition, à ce moment-là, Foucault avait eu l'idée d'une anthologie de documents de ce qu'il avait travaillé, c'est-à-dire les archives de l'hôpital général pour les malades, les criminels et les fous qui sont dans l'histoire de la folie, et d'autre part, des archives de la Bastille pour tous les emprisonnés à la Bastille pour de multiples raisons, et en particulier, soit parce qu'ils ont été arrêtés à la police pour délits ou extravagances, et là on trouverait évidemment tout un répertoire de délits sexuels, mais pas seulement, ou bien parce qu'ils sont à la Bastille parce qu'ils y ont été mis par la volonté de leur famille, puisque un grand nombre des embastillés sont là parce qu'un père, une mère, une femme, un mari ont écrit, on fait écrire une lettre au roi pour faire cesser un scandale qui est en train de déshonorer la famille. Et donc, le roi donne une lettre de cachet qui va faire emprisonner, soustraire au scandale et à la cité le responsable. Et donc, Foucault était fasciné par ces archives-là, parce qu'on y trouve évidemment des multiples fragments de biographies dans les lettres de cachet, décrivant les raisons pour la famille ou quelqu'un de la famille de faire emprisonner un autre, dans les condamnés de la Bastille ou dans les enfermés de l'hôpital général, des fragments d'existence en marge. Et donc, du coup, il avait ce projet d'une publication, d'une anthologie de ces textes, et pour lesquels il aurait écrit seulement une introduction, mais sans aucun commentaire au texte, c'est-à-dire cette sorte de fascination ou de sidération par rapport à l'archive elle-même, brute, sans commentaire. Finalement, l'anthologie ne sera pas publiée, mais restera l'introduction qu'il avait écrite et qui est ce texte publié en 1977 dans les cahiers du chemin, « Vie des hommes infâmes », Le projet prendra une autre forme, celle d'une série, d'une collection qui, à partir de 1978, sera publiée avec le titre de « Vie parallèle ». Et donc là, ce sont des monographies sur des textes de nature descriptive ou autobiographique. Et d'un autre aspect, dans le livre avec Arlette Farge, qui s'appelle « Le désordre des familles » et qui est fondé sur les archives de la Bastille, et en particulier les lettres de cachet. Et en particulier les lettres de cachet qui sont demandées par les familles, non celles qui sont très minoritaires et qui étaient des lettres de cachet à usage politique pour faire enfermer sans jugement quelqu'un qui pouvait déplaire. Bien sûr, ça peut exister. Et il y a une exposition en ce moment qui va bientôt terminer, je crois, à l'Arsenal, que je vous conseille de voir, sur la Bastille, et qui est évidemment fondée plutôt sur l'autre massif de lettres de cachet, c'est-à-dire des arrestations pour des délits de circulation de libelles et de pamphlets diffamatoires ou pour des délits religieux, protestants ou jansénistes. Mais dans le livre « Le désordre des familles », c'est évidemment les lettres de cachet de l'autre aspect, c'est-à-dire les lettres qui sont prises par le roi après une demande des familles. Alors lorsque ce texte-là, « Vie des hommes infâmes », qui s'inscrit dans cette relation avec un projet comme celui de Schwab, qui peut être une des sources d'inspiration au-delà du jeu avec le père Foucault pour Michon, qui a donné lieu, qui a donné un socle à beaucoup d'études d'une historienne comme Arlette Farge, mérite qu'on y revienne, puisqu'on y trouve aussi un projet qui est l'idée de constituer une anthologie d'existence, avec que la rencontre, en quelque sorte, entre l'infime et l'infâme, puisqu'il s'agit, comme il le dit, de vies infimes qui n'ont laissé qu'une trace, celle de ce document qui les fait enfermer ou qui les condamne. Et il s'agit aussi de vies d'hommes infâmes, mais, comme le dit Foucault, non pas dans l'infamie grandiose de criminels spectaculaires, mais, je cite, il oppose cela donc à l'infamie qui n'est qu'une modalité de l'universel fama, puisque la fama, c'est la réputation. Les grands criminels, alors ici Gilles de Rais, Cartouche, Sade, Lassner, participent. Ils sont bien sûr infâmes, mais infâmes dans ce sens de la fama, d'une immense réputation. Ce qui l'intéresse dans les archives qu'il avait lues pour l'histoire de la folie ou pour surveiller et punir, c'était cette question des infamies liées avec l'infime, avec le destin anonyme. Mais le Récollet apostat, Récollet, c'est une congrégation religieuse, mais les pauvres esprits égarés sur les chemins inconnus, ceux-là sont infâmes en toute rigueur. Ils n'existent plus que par les quelques mots terribles qui étaient destinés à les rendre indignes pour toujours de la mémoire des hommes. Et le hasard a voulu que ce soit ces mots seulement qui subsistent. Leur retour maintenant dans leur réel se fait dans la forme même selon laquelle on les avait chassés du monde. Inutile de leur chercher un autre visage ou de soupçonner en eux une autre grandeur, ils ne sont plus que ce par quoi on a voulu les accabler, ni plus ni moins. Telle est l'infamie stricte, celle qui, n'étant mélangée ni de scandale ambigu, ni d'une sourde admiration, ne compose avec aucune sorte de gloire. On voit donc que là, le déplacement de l'infamie est de la grandiose, le grandiose du scandale ou du crime, à cette infamie comme catégorie imposée sur des destins, à travers des documents de papier qui sont devenus des traces de papier et qui sont souvent la seule trace de ces existences. Et alors, du coup, ce texte de Foucault fait vaciller la frontière entre, on va dire, la littérature, la fiction d'un côté, et le réel et l'histoire de l'autre. D'abord parce qu'il s'enracine dans l'histoire. Les personnages ont existé. Lorsque Foucault énonce au début de l'introduction quelles sont les règles qu'il avait suivies pour constituer son anthologie, qui ne sera pas publiée, il avait défini un certain nombre de principes, qu'il s'agisse de personnages ayant existé réellement, que ces existences aient été à la fois obscures et infortunées, qu'elles soient racontées en quelques pages, ou mieux, quelques phrases, aussi brèves que possible, que ces récits ne constituent pas simplement des anecdotes étranges ou pathétiques, mais que, d'une manière ou d'une autre, parce que c'était des plaintes, des dénonciations, des ordres ou des rapports, ils aient fait partie réellement de l'histoire minuscule de ces existences, de leur malheur, de leur rage ou de leur incertaine folie, et que, du choc de ces mots et de ces vies, naissent pour nous encore un certain effet mêlé de beauté et d'effroi. Donc voilà les règles qui étaient rassemblées. On y trouve à la fin cette sorte de fascination, de sidération, d'effroi devant la brutalité de l'archive brute. On y voit que, comme chez Schwab ou comme chez Borges, le garant finalement de la fiction, c'est l'existence réelle des individus, et qu'on y voit que sur ce socle historique, ce que l'on peut atteindre, c'est aussi une réalité historique, dans la mesure où que ces vies sont possibles à admirer, ou à contempler, ou à commenter, parce qu'elles ont été enregistrées administrativement par l'administration de l'hôpital général, par la justice ou par l'administration de la prison d'État qu'est la Bastille. Et Foucault voit dans cet enregistrement administratif des vies infimes d'un quotidien sans gloire, une matrice possible pour une nouvelle écriture littéraire. Et dans l'introduction, il met en rapport cet enregistrement administratif des vies infimes avec une nouvelle possibilité pour une écriture romanesque. Donc c'est une première frontière vacillante entre l'archive d'histoire et l'écriture de fiction. Mais il y en a une autre qui inverse presque les termes, c'est-à-dire que, comme on le voit ici, ou comme dans les deux citations que j'ai faites, les vies se réduisent à une existence verbale. Ce que l'on a écrit sur elles, et ce que l'on a écrit en général très brièvement, dans une description de l'individu et de la raison pour laquelle il est enfermé, soit à l'hôpital général, dans un des hôpitaux qui constituent l'hôpital général, soit dans la Bastille, la prison d'État. Et finalement, ces êtres réels, ils deviennent, du fait qu'ils n'existent que par l'écrit qui en a gardé une trace, partielle, limitée, éphémère, ce sont quasiment des êtres de fiction, des êtres qui sont réduits à cette fiction, c'est-à-dire à l'écriture, souvent très brève, qui a été écrite à propos d'eux. Et je pense que c'est là aussi une des raisons de l'impact du texte de Foucault. C'est cette faire vaciller la frontière entre l'histoire et la fiction, entre un réel et une littérature. Et on voit effectivement que le texte a eu une grande postérité. Alors, cela nous conduirait à la fin de la réflexion de ce premier point, j'ai un second plus bref, sur un autre rapport de la littérature à l'histoire, conduirait évidemment à voir comment certaines approches historiennes, sinon strictement d'historiens, ont pu s'emparer maintenant de cet attrait pour l'anecdote, tel qu'on la trouverait chez John Aubrey, révisé par Marcel Schwab, et d'autre part, cet intérêt pour des fragments de vie, des histoires de vie infimes ou infâmes, mais qui constituent en quelque sorte une trame possible pour une écriture d'histoire. Le premier point, cette idée de l'épisode ou plus encore de l'anecdote, est tout à fait centrale pour une des approches dont on a parlé dans le séminaire, c'est-à-dire l'approche du New Historicism, développée par Greenblatt et quelques autres. C'est-à-dire de considérer l'anecdote comme, non pas ce que l'on doit reléguer comme appartenant à une tradition qu'on trouvait, mais comme un des lieux où le monde social, discours, pratiques, rituels, ordinaires des existences, vient rencontrer le monde de la production, de la composition, de la fiction. Dans un livre que Greenblatt a publié avec Catherine Gallagher, qui s'appelle Practicing New Historicism, qui s'ajoute à la fois à Shakespearean Negotiations, que j'avais commenté, et puis à la biographie, peu une New Historicist, mais un best-seller de Will in the World, la biographie de Shakespeare, s'ajoute ce troisième volume où il y a une réflexion en quelque sorte sur les tactiques, les méthodologies, les effets recherchés par l'écriture New Historicist. Et les deux premiers sont consacrés à l'anecdote. Et Greenblatt l'a définie ainsi dans sa vertu heuristique de produire de la connaissance que... Je traduis le début là. Et l'anecdote satisfait le désir pour quelque chose qui soit en dehors de la littérature. Quelque chose, en effet, qui pourrait mettre en question les frontières du littéraire. Elle offre, l'anecdote, un accès au quotidien, le lieu où les choses sont actuelles, sont faites, la sphère de pratique qui, même dans ses plus bizarres ou ses plus apparemment dénués de sens, articulation, revendique une vérité qui est déniée à la plus éloquente, au plus éloquent des textes littéraires. Ou plutôt, l'anecdote comme une manière de zone de contact, qui est cette sorte d'espace enchanté où le genius literarius, le génie littéraire, peut être dominé, enfin, peut venir pardon, à l'existence. Voilà donc cette idée de l'anecdote est en quelque sorte le garant de réel, même s'il apparaît le plus awkward ou le plus inept articulation, dénué de sens, bizarre. Mais en même temps, elle est la garantie de cette truth, de cette vérité du réel que le texte littéraire, même le plus éloquent, dit-il, ne peut pas revendiquer comme son garant. Et donc, du coup, l'anecdote devient le lieu de la négociation, de la transaction entre le monde social et la production de l'œuvre. Et son article, par ce premier essai dans le livre « Practicing New Historicism », a pour titre « The Touch of the Real », la touche du réel. Donc, évidemment, on est ramené à ce que nous avions discuté dans le séminaire sur « New Criticism et Nouvelle Critique », Barthes, l'effet de réel. Mais la grande différence ici, c'est que cet effet de réel n'est pas perçu comme dans la perspective de la nouvelle critique comme une illusion référentielle, c'est-à-dire une référence à un réel qui n'existe pas et qui est un effet de simulation d'un réel absent. Ici, dans la perspective new historicist, l'anecdote, comme chez Foucault, comme chez Schwab, comme chez Borges, se lie avec quelque chose qui fut, avec une réalité qui a son poids, qui a son poids d'existence. À partir de ce moment-là, the touch of the real n'est pas identique à l'effet de réel. Il est ce qui permet au lecteur ou au spectateur, s'emparant de la fiction littéraire, mais d'une fiction littéraire qui a absorbé, qui a incorporé dans la négociation ou la transaction des éléments du réel réel, si je peux dire, est donc confronté à quelque chose qui a la double caractéristique d'être une expérience esthétique originale. Il n'est pas dans la everyday, c'est pas une pratique de tous les jours, c'est pas du quotidien, c'est une expérience propre que l'on peut avoir en étant en assistant à une représentation de théâtre ou en lisant le livre, mais en même temps, cette touch of the real lui rappelle que l'œuvre est déchiffrable et compréhensible parce qu'elle a transporté sur un registre esthétique doté d'énergie quelque chose qui appartient d'une certaine manière à son expérience à lui ou à elle, comme lecteur et comme spectateur. Et c'est ça qui donne le rapport à l'anecdote du New Historicism, donc un rapport qui est presque aux antipodes de celui de l'anomalie, de l'extravagance que recherchait Schwab et qui est ici, au contraire, une manière de raccorder la composition esthétique avec un monde familier mais défamiliarisé par l'œuvre d'expérience ou de connaissance, de perception ou de représentation. C'est la première ligne que je voulais développer, la littérature s'installant sur un lieu de l'histoire, mais un lieu que l'histoire n'occupe pas, soit parce que, première figure, elle s'attache à l'écume des choses et des êtres, alors que la littérature peut s'emparer du monde social tout entier, comédie humaine, ou description que fait Manzoni de son travail, ou bien parce que l'histoire qui s'intéresse au XIXe siècle de plus en plus aux masses, aux collectifs, au peuple, un peu incarné par Michelet, manque ce qu'il y a d'irréductiblement singulier dans l'individuel, et la littérature s'installe sur ce lieu qui est celui des biographies imaginaires, celui des vies infimes, et avec, dans le cas de Foucault, cette incertitude sur les limites entre des êtres réels mais qui sont de fiction parce qu'ils sont de papier, et de l'autre côté, une construction d'une fiction, mais qui donne accès à quelque chose de profond dans le fonctionnement social, ou avec cette utilisation de l'anecdote, dans le cas du New Historicism, mais on pourrait déplacer l'attention sur l'utilisation de la biographie dans différentes formes d'histoire sociale ou culturelle, ou une nouvelle histoire de l'événement qui, là encore, en fait, la manière d'entrer dans une totalité. Pour terminer, je voudrais évoquer, mais plus rapidement, un deuxième aspect, c'est que lorsque la littérature s'empare de l'histoire, non pas à la place de l'histoire, mais s'emparant de l'histoire, et je ne veux pas dire, évidemment, s'emparant du passé, puisque ça, ce serait un immense sujet qui nécessiterait de porter attention, comme on l'a fait quelquefois, soit sur les pièces historiques, il y en a 10 dans le corpus shakespearien, mais on pourrait en trouver beaucoup d'autres chez les Élisabéthains ou beaucoup d'autres dans le répertoire de la Commedia, sûrement un peu moins dans le répertoire du théâtre français, mais on en trouverait tout de même. Donc des pièces qui s'emparent du passé, d'un fragment de passé. Alors ce passé peut être lointain, et là c'était la préférence française, un passé biblique ou un passé antique. Dans le cas du théâtre anglais ou dans le cas de la Commedia, c'est un passé immédiat, c'est un passé souvent quasi contemporain du moment de l'écriture. Les pièces de Lope sur Christophe Colomb, ce que j'évoquais, le Henri VIII de Shakespeare, ou les pièces anglaises qui sont consacrées aux guerres de religion en France, qui sont donc là pratiquement contemporaines de l'événement lui-même. Donc on a cette chose. Et après, on pourrait voir comment le roman historique, jusqu'à sa floraison actuelle, s'empare du passé. Non, ce n'est pas cela dont je voudrais parler, qui sera en soi un thème fondamental pour un séminaire en cours. Mais c'est de quelque chose d'autre. C'est lorsque la littérature s'empare de l'écriture historique. La première situation est une situation dans laquelle la littérature de théâtre ou de roman considère qu'elle établit un rapport avec le passé qui est, pour reprendre les mots de Greenblatt, plus énergique, plus engagé, plus compromis que le savoir des historiens qui suppose une sorte de distance, de neutralisation et, si on veut employer un caractéristique négatif, d'inertie. L'autre perspective, celle dont je vais dire un mot maintenant, est différente. Elle s'empare dans l'écriture de la fiction des marques qui, normalement, doivent authentifier un discours de savoir. C'est-à-dire qu'elle s'empare de l'histoire non pas comme au sens du passé qui fut, mais de la discipline qui analyse ce passé. Avec la fiction du document, avec une sorte de théâtre de l'érudition, des notes, des références, des citations, avec l'appropriation de techniques de la preuve. Et je crois qu'il faut distinguer cela de ce qui est la production des faux, parce que ce que je désigne ici peut jouer sur l'ambiguïté, peut tirer profit de l'incertitude du lecteur qui peut, soit sincèrement, soit parce qu'il lui plaît de jouer le jeu, penser qu'il est en train de lire un texte d'histoire alors qu'il lit une fiction, mais une fiction qui emploie toutes les techniques du discours d'histoire. C'est différent du faux qui, lui, a pour but de produire des documents qui se donnent comme authentiques et qui doivent avoir la valeur de l'authenticité et dont on sait qu'ils sont ou des textes qui auraient été perdus et retrouvés, mais retrouvés par le faussaire qui les a écrits. C'était le point de départ du séminaire, lorsque j'avais appelé le premier séminaire « Lire un texte qui n'existe pas ou qui n'existe plus ». Alors, un des formes, c'est de l'inventer. Et on trouverait au XVIIIe siècle la floraison de ces forgeries, si on veut faire un anglicisme française, enfin, de ces falsifications. Celles que j'avais mentionnées toujours en lien avec l'intérêt pour Shakespeare, c'était les faux manuscrits shakespeariens multipliés par Ireland. Mais à côté, on pouvait avoir la découverte du poète Ossian par Macpherson ou d'un écrivain médiéval Rollet par Chatterton. Donc, il y a une production du faux. On peut dire aussi qu'elle peut jouer sur une recherche de crédibilité et peut-être, pour ceux qui peuvent le déchiffrer, le plaisir de faire semblant de se laisser prendre au faux. Mais c'est un peu différent de ce que je voudrais mentionner en pensant à trois textes. L'un que j'ai parfois commenté, qui est, on l'a mentionné dans le séminaire, on pourrait dire d'ailleurs deux textes de Max Aub, l'auteur né à Valence et qui était un républicain espagnol qui finalement est mort à Mexico après avoir pris la nationalité mexicaine et qui, dans un moment de sa vie, avait écrit une fausse biographie d'un écrivain, qui, si je me souviens bien, s'appelle Petrenia, et des rééditions successives avaient abouti à une dernière édition dans laquelle la dernière partie était apparemment un PhD écrit par une étudiante américaine sur cet auteur qui n'avait jamais existé. Donc il y a la première forme. Et la deuxième forme, plus achevée, c'est évidemment que la biographie du peintre catalan Josep Torres Campalans, évidemment totalement imaginée et inventée, et avec là les ressources qui sont toutes celles de l'authentification du vrai dans les sociétés contemporaines. C'est pratiquement en écho avec Barthes, ce livre, photographie, cahier manuscrit, et évidemment où il a poussé quelque chose qu'on faisait moins sur l'art que sur la littérature, c'est-à-dire la présence des œuvres elles-mêmes de Campalans dans le livre, toutes peintes par Max Aub. Donc ça, c'est un jeu qui, pour lui, avait un rapport avec la moquerie des catégories des historiens de l'art, mais qui, pour nous, peut être repris dans le contexte de la discussion à la fois sur la force des faux et en même temps sur la capacité à les déchiffrer comme tels, puisqu'on les appelle des faux. Et à partir de ce moment-là, le livre de Max Aub peut s'inscrire dans cette tension dialectique entre la puissance des faussaires et les capacités critiques du savoir, qui est un thème essentiel dans un livre d'Anthony Grafton, qui d'ailleurs fera des conférences, mais pas sur ce sujet, au Collège de France en juin, mais son livre « Forgers and Critics », qui est consacré à cette dialectique qui fait que chaque fois que la capacité critique de déchiffrer le faux est en place, l'exigence des faussaires devient plus forte. Donc c'est un premier texte qui montre cette capture de tous les critères de documentation et de preuve, l'évidence de l'objet, la présence de l'image, qui peut s'inscrire dans cette littérature s'emparant de l'histoire comme savoir, comme discours, comme technique. Un deuxième texte pourrait être celui que j'avais évoqué dans le premier séminaire, c'est-à-dire le texte de l'écrivain chilien mort en Catalogne, Roberto Bolaño, qui a pour titre « La littérature nazie en Amérique », qui est, je le rappelais, une incroyable bibliothèque qui est fondée à la fois sur une bibliographie de tous les titres imaginaires de ces littératures diverses, mais inspirées par ce point commun, le racisme ou l'aspect autoritaire ou dictatorial du nazisme, et d'autre part des biographies, et donc là on pourrait le mettre à côté de nos auteurs d'aujourd'hui, des biographies classées par différents courants de cette littératura nazi, et qui sont là aussi des fragments de vie des auteurs dont on retrouve dans l'index final, les titres des œuvres. Mais pour conclure et pour rester dans le cadre de la littérature française, je vais prendre un troisième exemple, qui sont les œuvres d'un auteur français extrêmement fameux et célèbre, presque autant aussi à l'égal de Michon, qui est Pascal Quignard, et dont une partie des livres, sinon tous d'ailleurs, sont liés à un soubassement historique. Ceux qui me paraissent moi le plus intéressant, ce sont ceux qui utilisent son énorme connaissance de l'Antiquité, et du grec et du latin, et dans lesquels sont imaginés des textes retrouvés. Il y en a un qui a pour titre « Les tablettes de buis d'Apronenia Avitia », qui est publié chez Gallimard dans la collection « L'Imaginaire ». C'est un livre de 1984, où une personne fictive, qui est cette Apronenia Avita, est supposée vivre entre 379 et 414, donc elle est spectatrice du sac de Rome par Alaric, et est spectatrice surtout du triomphe du christianisme aux dépens des religions païennes. Et la fiction est de supposer que sur le matériel qu'on utilise, ou le matériau qu'on utilise dans l'Antiquité pour écrire, c'est-à-dire des tablettes de cire, elle a écrit toute une série de aphorismes, bons mots, ou comme dans un agenda, les choses à faire, choses à ne pas oublier. Et d'autre part, dans un autre livre qui a pour titre « Albucius », qui lui est publié chez Folio, c'est l'imagination d'un dramaturge, je ne sais pas si d'ailleurs il a la trace d'existence historique, je ne l'ai pas vérifié, qui s'appelle Caius Albucius Sitius, et qui... Silus, Caius Albucius Silus, livre de 1990, là on est un peu avant puisqu'il est né en 69 avant Jésus-Christ, et tout le livre restitue des fantômes d'œuvres. Albucius aurait laissé non pas les œuvres en tant que telles, mais laissé en quelque sorte des esquisses, des sommaires, et tout le livre est la récupération de ces œuvres non pas achevées, mais imaginées, esquissées, et donc leur analyse. Alors ce qui est intéressant dans le travail de Quignard, me semble-t-il, c'est qu'il pousse à l'extrême une idée paradoxale, c'est-à-dire que la vérité du passé, il y a eu des tablettes de buis, il y a eu des dramaturges, il y a peut-être eu un Albucius, je ne sais pas. Cette vérité du passé, qui est enserrée dans la connaissance savante, érudite de l'Antiquité, devient en quelque sorte une garantie de ce qu'on pourrait appeler, en jouant sur les mots, une authenticité de la fiction. Il la présente comme telle. J'invente cette page. J'invente est un mot qui revient très souvent, mais qui laisse supposer que d'autres pages ne sont pas inventées. Donc le lecteur doit jouer avec ses revendications d'imagination, mais qui laisserait supposer que tout le reste du livre, lui, est une archive historique. Mais on voit bien le sens de ce projet, qui a cet aspect paradoxal, qui est de trouver dans le vrai, ce vrai peut-être de la matérialité de l'écriture, ce vrai peut-être de multiples éléments historiques qui sont présents dans les livres, comme une sorte de garantie, de condition de possibilité, en quelque sorte, de protection de la fiction contre une banalité du faux. Alors je lis l'avertissement de Albucius. Quand le présent offre peu de joie et que les mois qui sont sur le point de venir ne laissent présager que des répétitions, on trompe la monotonie par des assauts du passé. On ouvre des cuisses des morts et leur ventre, vieux ventre doux de 2100 ans, se touche et se recouvre. On pioche dans ce qu'on ne peut dire de sa vie à personne et on transporte ces petites poutres de bois et ces petits duvets des oiseaux dans un nid de vieilles patriciennes ou d'antiques hébreux. Cela abrite. Ce qui fut vrai protège mieux le faux et les désirs auxquels le faux cède le passage qu'une simple intrigue anachronique qu'on rapièce et qu'on tire par les cheveux. Caius Albucius Silus a existé. Ses déclarations aussi. J'ai inventé le nid où je l'ai fourré et où il a pris un peu de tiédeur de petite vie, de rhumatisme, de salade, de tristesse. Ce fantôme y a peut-être gagné quelques couleurs et des plaisirs, et peut-être même de la mort. J'ai aimé ce monde où les romans que son défaut invente. Texte Tignard écrit d'une manière complexe, en dense, serrée, mais vous voyez que l'idée accueille cette vérité, un personnage qui a existé, des faits historiques réels, des supports de l'écriture tout à fait réels, est pour lui une condition de possibilité d'une écriture que ne donne pas l'immédiate invention d'une intrigue anachronique. Et ce qui fut vrai protège mieux les désirs auxquels le faux cède le passage qu'une simple intrigue anachronique, me semble-t-il, est la clé de cette écriture qui investit cette historicité réelle, attestée, du contenu propre de la fiction et qui, dans ce cas-là, sont ce que l'on ne peut pas que dire à personne et qui vient se nicher dans cette matrice que donne l'histoire, ces éléments d'histoire, des faits, des dates, des lieux, des pratiques, des noms, des objets. Et du coup, on voit que lorsqu'il est question de ces assauts du passé, qui est une très belle formule de la première ligne, ces assauts du passé qui permettent de dire quelque chose que l'on ne peut ou ne veut dire autrement, ces assauts du passé qui donnent un poids de vérité à ce qui est la fable, peut-être chez Quignard se lit avec une distance par rapport au premier projet qui est en respect de l'historicité, la chute de Rome ou bien l'écriture dramatique pendant l'Empire et qui est quelque chose évidemment qui là sépare le projet si historique de toute forme d'histoire, c'est-à-dire une perspective de confusion des temps, une perspective de finalement à terme de négation du temps. Et pour terminer, il y a un exemple de cela dans les tablettes de buis d'Apronéniag Avitia, qui est que, supposément, cette patricienne romaine, attachée d'ailleurs au culte des dieux romains et assaillie par la chute de Rome et l'invasion du christianisme, elle écrit dans une des tablettes « Choses longues et choses sans durée ». Parmi les choses qui sont très longues, j'ajouterais l'enfance, l'arbuste du buis. Quand j'attends Aulus, qui est chez le grammairien et qui devrait déjà être de retour depuis une heure, la vieillesse, la tortue de mer, la mort de ceux qui sont morts, l'insomnie, la corneille. Parmi les choses sans durée, tu n'as pas noté les dieux immortels et les œuvres irréprochables. Parmi les choses sans durée, il faut retrancher l'amour. Il est à l'espèce comme le sexe ou les mamelles qui l'accompagnent et qui permettent de le reproduire et qui ne définissent rien de proprement humain. Bien, on peut en rester là et peut-être engager, comme la dernière fois, une discussion qui peut porter sur ce que j'ai dit, mais aussi sur tout ce que, et qui est peut-être plus intéressant, je n'ai pas dit.